les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour, nous sommes des élèves du CM2 du Clos-au-Duc. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième fois avec au sommaire un reportage sur les kinés avec Aïssatou et Laetitia. Ensuite, un sujet sur l'astronomie avec Lisa et Jade. Et pour finir, plein de cadeaux avec Anna, Guillaume et Amine. Et tout de suite, le kiné avec Laetitia et Aïssatou.
Bonjour à tous, nous sommes avec Maxime qui est un kinésithérapeute. Voici l'interview que nous faisons. Alors bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Donc, je m'appelle Maxime.
D'accord. Quelle étude faut-il faire pour être kiné ?
Alors il faut faire 4 années d'études maintenant, une année à la faculté de médecine et ensuite on passe un concours qui permet d'accéder à une école de masseurs kinésithérapeutes qui s'appelle un institut de formation en masso-kinésithérapie.
Votre métier est-il dur ?
Alors dur, on peut pratiquer le métier de kiné de plusieurs façons, soit en salarié, et dans ce cas-là, on travaille, on fait des horaires fixes et on a des patients. Alors les patients, ça peut être très varié, ça peut être des enfants, des personnes âgées, la difficulté n'est pas la même avec les uns et avec les autres. Et on peut travailler en libéral, où là, on peut faire beaucoup, beaucoup d'heures.
En quoi particulièrement ?
Alors, il y a donc plusieurs aspects. Il y a une difficulté dans la variété des patients. Donc, avec les tout-petits, on peut avoir des cris, des pleurs. On peut aussi avoir des rires. Ça, c'est souvent des rires. Et puis, avec les personnes âgées ou des personnes handicapées, par exemple, on peut avoir un métier qui est un petit peu plus physique, où là, il faut aider les patients à se déplacer, les porter, les aider à se mettre au lit, les aider à se relever. En cas de chute, on leur apprend à se relever. Donc ça peut être un petit peu plus dur physiquement.
Votre métier consiste à quoi ?
Alors, le métier de kiné, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très varié. On a des patients très variés, de 0 à plus de 100 ans. On a des maladies qui sont très variées. On peut avoir des membres cassés, on peut avoir des problèmes respiratoires. On peut avoir des problèmes neurologiques au niveau des nerfs, on peut avoir des maladies musculaires. Et le métier de kiné, c'est d'essayer de réparer toutes ces choses-là. Donc c'est très, très varié.
Faut-il être envoyé par un médecin ou on peut décider pour venir chez vous ?
Alors, à l'heure actuelle, il faut impérativement passer chez le médecin, avoir une prescription médicale pour faire des séances de kiné.
Faites-vous que des massages ?
Non, on ne fait pas que des massages. Alors, notre diplôme complet, c'est le diplôme de masseur kinésithérapeute. Donc, c'est une partie du métier, les massages. L'autre partie est beaucoup plus rééducative. Donc, avec, on apprend à mobiliser les membres, les bouger, plier un genou, lever un bras. C'est des techniques de renforcement musculaire, d'étirement, de reprogrammation sensorimotrice. C'est tout le contrôle de notre corps. Pour apprendre à bien le maîtriser, bien le tenir pour aller avoir une meilleure santé.
Alors, que faites-vous le plus souvent ?
Alors, le plus souvent, dans mon activité, moi, je fais beaucoup de travail avec les enfants, les petits-enfants handicapés. Donc, c'est beaucoup de travail sur la neurologie, sur les nerfs. Je leur apprends à marcher, beaucoup.
Combien de séances faut-il faire pour une bonne rééducation ?
Alors là, tout dépend de la pathologie, donc de la maladie, de son importance. Et puis après, tout dépend du patient. Chaque patient récupère de façon différente. Il faut donc s'adapter au patient. Pour certains problèmes respiratoires, par exemple, chez les petits, c'est quelques séances, moins de 5 souvent. Et puis j'ai des patients que je vois tout le temps, toute l'année, et qui auront de la kiné toute leur vie.
Quelles parties du corps sont les plus difficiles à rééduquer?
Alors, on a tous nos préférences. Il y a une partie du corps, moi, que je trouve plus difficile à traiter, c'est le dos, parce qu'on a des tableaux très variés et ce n'est pas toujours que le corps qui rentre en compte. Il faut vraiment prendre le patient dans sa globalité. Et il y a parfois des choses qui sont difficiles à saisir quand on a des gens qui ont mal au dos.
Quel genre d'outils utilisez-vous?
Quel genre de?
D'outils utilisez-vous?
D'outils. Alors, le premier outil qu'on utilise, c'est nos mains. Hein, on travaille, c'est un métier manuel, on travaille vraiment avec nos mains. Ensuite, les outils qu'on utilise, on a des plateaux instables, on a des poids pour faire du renforcement musculaire, on a des élastiques. Dans le cadre de la rééducation pédiatrique, moi j'ai beaucoup de jouets au cabinet, des quilles, des raquettes, des ballons. On a ensuite des ballons de rééducation aussi qui sont des très très gros ballons. Après, on peut utiliser d'autres choses. Il y a des kinés qui travaillent avec des cages pour accrocher des filins, des poids. On peut utiliser des espaliers. On peut utiliser des machines comme en salle de gym, de renforcement musculaire. C'est très, très varié.
Existe-t-il des kinés pour animaux?
Alors, kinés pour animaux, pas à ma connaissance. Il existe en revanche des ostéopathes pour animaux.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, les éditeurs, de nous avoir écoutés. Nous vous laissons pour l'astronomie qui va vous mettre la tête dans les étoiles.
Après ce petit pas de danse, nous remercions Aïssatou et Laetitia qui nous ont fait découvrir ce métier passionnant. Mais tout de suite, notre interview sur l'astronomie avec Mathias Gérard. Allez-vous bien?
Ça va pas mal, oui, merci.
Comment vous appelez-vous?
Alors moi je m'appelle Mathias et mon nom de famille c'est Gérard. Voilà, Mathias Gérard. Je travaille à la Maison de l'Enfant et des Découvertes.
À quoi constitue votre métier?
Bah en fait, pour commencer, je suis animateur, donc je travaille avec les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Voilà, je fais des animations pour les enfants, on les aide à essayer de comprendre des choses sur la vie, sur la nature, sur plein d'autres choses, sur tout ce qui concerne les sciences.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Oh bah ça commence à faire un petit moment, ça fait une petite dizaine d'années que je fais ça.
Combien votre salaire vous rapporte-t-il?
Ça me rapporte pas énormément, mais ça me rapporte assez pour vivre. Ça me rapporte 1 350 €, s'il faut donner un chiffre. Voilà, c'est pas un salaire mirobolant, comme on dit, c'est pas énorme, mais ça permet de vivre. Et puis, voilà. Puis le travail fourni est quand même sympa, donc ça compense le salaire.
Combien y a-t-il de planètes dans l'univers?
Dans l'univers? Alors, c'est l'univers, c'est très très grand. Des planètes dans l'univers, je pourrais pas te dire. Il y en a une, c'est infini en fait. L'univers c'est tellement vaste que on peut pas dire exactement combien il y a de planètes. Ça ne s'arrête pas l'univers. C'est quelque chose qui s'arrête pas, qui a pas de fin. Donc des planètes, ça se trouve, il y en a des milliards de milliards de milliards de milliards.
Et celles que vous connaissez, ce sont lesquelles?
Alors. Celles qu'on connaît, évidemment, c'est les planètes qui sont situées dans l'univers, mais plus précisément dans le système solaire. Hein, donc on a le Soleil, d'accord? Et autour de ce Soleil, il y a des planètes qui gravitent, c'est-à-dire qu'elles tournent autour. Elles tournent autour du Soleil. Nous, on est la troisième planète du système solaire, la planète Terre. Et en tout, il y en a 8. Voilà. Je peux vous les donner les noms, si vous voulez, ça t'intéresse. Donc il y a la première planète du système solaire qui s'appelle Mercure. La deuxième planète qui s'appelle Vénus, la troisième planète qu'on connaît très bien, je l'ai dit, c'est la Terre, la quatrième planète qui est Mars, ensuite c'est Jupiter, qui est une géante gazeuse, ensuite Saturne, et pour finir, encore deux planètes pour finir, pardon, Uranus et Neptune. Voilà, ça fait 8 planètes en tout.
Est-ce que les planètes ont déjà disparu ?
Est-ce que certaines planètes ont déjà disparu? J'ai envie de te dire oui, je pense qu'il y a certaines planètes qui ont déjà disparu. Les planètes, en fait, ça tourne autour de Soleil, C'est-à-dire, ça tourne autour d'étoiles, comme notre Soleil. Notre Soleil, c'est une étoile. Et il y a certaines étoiles qui grossissent, et du coup, qui mangent certaines planètes. Voilà, si on peut expliquer ça comme ça. Donc, c'est quasi sûr qu'il y ait des planètes, il y a des planètes qui ont déjà disparu. Par contre, je pourrais pas te donner de nom. Alors là, je pourrais pas te dire.
Combien de temps faut-il pour aller sur la Lune ?
Alors ça, je sais pas exactement. Je crois qu'à l'époque où on a été sur la Lune, où Neil Armstrong a été sur la Lune, je crois qu'il a mis, je crois que c'était une semaine de voyage. Mais c'est une information à vérifier parce que j'en suis pas certain. Mais je crois que le voyage en fusée, oui, c'est environ une semaine pour se rendre sur la Lune. Voilà, entre le décollage et l'alunissage, le fait d'atterrir sur la Lune.
Qu'est-ce que la Lune ?
Alors la Lune, c'est un satellite. Alors c'est pas un satellite comme les satellites pour les télécommunications, ça c'est des satellites qui sont fabriqués par les hommes. La Lune, c'est un satellite naturel. Il s'est formé en fait naturellement. Alors faut pas confondre, c'est pas une planète et c'est pas non plus comme un soleil, hein, ça ne fait pas de lumière. Elle reflète juste la lumière du soleil. Et pour une anecdote, il y a une théorie qui dirait qu'il y a déjà quelques milliards d'années, la Terre aurait été percutée par une planète de la taille de Mars et ça aurait fait une explosion gigantesque. Il y aurait des fragments de la Terre qui seraient partis en fait dans l'espace et qui auraient commencé à tourner autour de la Terre. Et au fur et à mesure, ils se seraient amalgamés, c'est-à-dire qu'ils se seraient rassemblés. Et au fur et à mesure, ça aurait créé la Lune. Hein, mais ça, sur plusieurs milliards d'années. Hein. C'est déjà très très vieux.
Quelle est la différence entre la galaxie et l'univers ?
Alors, c'est très compliqué. Alors l'univers, en fait, c'est infini. D'accord ? Donc on va essayer de reprendre du début. Le Soleil est là. Et autour de ce Soleil, on a des planètes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 8 planètes du système solaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le système solaire. Autour de système solaire, il y a encore quelque chose qui englobe ça, qui s'appelle la galaxie. Voilà. Pour nous, elle a un nom, cette galaxie, on l'appelle la Voie lactée. C'est la galaxie dans laquelle le système solaire se trouve. Mais si tu veux, le système solaire, ça serait un tout petit point, tout petit dans la galaxie. La galaxie, c'est déjà quelque chose de gigantesque, de très très grand. Mais c'est encore rien comparé à l'univers, puisque l'univers, eh ben, on ne sait pas où il se termine. Il n'a pas de fin.
Comment fait-on pour observer la galaxie ?
Alors, notre galaxie à nous, on ne peut pas l'observer, parce qu'elle est beaucoup trop grande, et on ne peut pas, si tu veux, on ne peut pas sortir de la galaxie et la regarder de l'extérieur. Ça, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a aucune fusée qui est assez puissante pour faire ça, pour nous emmener aussi loin. Et en très peu de temps, c'est complètement impossible. Donc on peut observer d'autres galaxies, d'accord, qui sont situées dans l'univers autre part. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, on peut aussi observer ce qu'on appelle donc la Voie lactée en été et dans des endroits où il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire où il n'y a pas de pollution lumineuse. La nuit, on peut observer la Voie lactée. C'est en fait un des bras de notre galaxie. C'est un des côtés de notre galaxie. On ne peut pas la voir entière, mais on peut voir le côté où on n'est pas. D'accord ? Donc ça, en fait, ça fait une espèce de grande bande laiteuse dans le ciel.
Combien y a-t-il d'étoiles ? Lesquelles ?
Combien y a-t-il d'étoiles ? Alors, dans notre galaxie, il y a entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Donc c'est beaucoup. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit, la galaxie, elle est vraiment énorme. C'est vraiment très, 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 très grand. Notre Soleil fait partie de cette galaxie. C'est une des étoiles parmi ces 200 milliards d'étoiles. Après, dans l'univers des étoiles, c'est toujours la même question. On peut pas les compter. Il y en a beaucoup trop. C'est pas possible.
Pourquoi brillent-elles ?
Ah, pourquoi les étoiles brillent ? Ouh, alors ça, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que les étoiles brillent et elles font de la chaleur. En fait, on va comparer ça. C'est des espèces de réactions presque nucléaire, si on veut. C'est des réactions en chaîne qui se passent à l'intérieur de l'étoile. D'accord ? On va dire que c'est très chaud et c'est comme si ça bouillait, quoi. C'est tout le temps en mouvement. Et ce mouvement fait que l'étoile brille. D'accord ? À la base, c'est du gaz, en fait. Mais tout ça, ça interagit, les petites molécules de gaz s'agitent et elles travaillent entre elles. Et ça fait que l'étoile, à un moment donné, s'allume et brille. Voilà, c'est vraiment comme presque des réactions nucléaires. C'est très, 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 très puissant.
Nous remercions Mathias Gérard qui nous a fait découvrir l'astronomie. Nous espérons que notre reportage vous a plu. Mais maintenant, nous allons rester la tête dans les étoiles avec le Père Noël.
Merci Lisa et Jade pour ce sujet. Nous avons encore la tête dans les étoiles. Restons un peu dans les étoiles et partons à la rencontre du Père Noël. Nous allons interviewer les enfants et les parents sur ce gros bonhomme à la barbe blanche.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Tom.
As-tu fait ta lettre de Noël ?
Oui.
Qu'as-tu mis dans ta liste de Noël ?
Des toupies.
Comment le Père Noël dépose les cadeaux ?
Avec son traîneau.
Comment t'appelles-tu ?
Kessia.
T'as quel âge ?
5 ans.
As-tu fait ta lettre de Père Noël ?
Oui.
À quoi ressemble le Père Noël ?
Avec des habits rouges.
Est-ce qu'il a une barbe ou pas ?
Oui, blanche.
Comment le Père Noël dépose ses cadeaux ?
Avec son traîneau.
Merci, au revoir.
Comment t'appelles-tu ?
Ethan.
Quel âge as-tu ?
5 ans.
As-tu fait ta liste de Père Noël ?
Oui.
Qu'as-tu mis dedans ?
Des toupies.
À quoi ressemble le Père Noël ?
Il a des habits rouges et blancs.
Comment le Père Noël dépose les cadeaux ?
Avec un traîneau.
Merci, au revoir.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Isabelle.
Quelle relation avez-vous avec le Père Noël ?
Oh, une relation bien lointaine. Je me rappelle de souvenirs d'enfance où le Père Noël était quelque chose de magique et ça continue d'être toujours magique d'ailleurs. Un moment privilégié pour les parents et les enfants.
Quel conseil pouvez-vous nous donner pour avoir des cadeaux ?
De croire au Père Noël aussi longtemps que c'est possible et bien entendu d'être gentil.
Qu'avez-vous mis dans votre lettre de Noël ?
Oh, je peux même pas le révéler parce que j'espère que le Père Noël va me l'amener.
Quand vous y étiez petit, avez-vous déjà vu le Père Noël ?
Oui, bien sûr. Je l'ai vu de nombreuses fois dans les magasins, en traîneau, se promener. Mais j'ai jamais eu le loisir de le voir dans la maison.
Merci et au revoir.
Comment t'appelles-tu ?
Corinne.
Quel âge as-tu ?
J'ai 32 ans.
Quelle relation avez-vous avec le Père Noël ?
Ah, bah, c'est un personnage, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est très sympathique et que j'adore.
Quel conseil pouvez-vous nous donner pour avoir des cadeaux ?
Bah, il faut être très sage avec ses parents et bien travailler à l'école.
Qu'avez-vous mis dans votre lettre de Père Noël ?
Ah bah plein de cadeaux, j'ai demandé une nouvelle voiture et puis après je vais peut-être pour dévoiler parce que j'aimerais que le Père Noël me ramène mes cadeaux.
Quand vous étiez petit, avez-vous déjà vu le Père Noël ?
Oui, je l'ai déjà vu, j'ai même pris une photo avec lui quand j'étais petite dans un magasin.
Merci, au revoir.
Au revoir.
J'espère que ce sujet vous a plu et que vous n'avez pas oublié de faire votre liste de Noël.
Merci d'avoir écouté ce beau sujet sur le Père Noël et passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ces reportages vous ont plu parce que nous, ça nous a drôlement plu. Et bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez beaucoup de cadeaux et qu'on se retrouvera le dernier vendredi avant les vacances. Au revoir.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.